Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maeva, une entrepreneuse sortie d'une école d'ingénieur qui a monté sa propre plateforme et qui a réussi, malgré le chemin tout tracé qui se présentait à elle, à se créer un job sur mesure qui lui correspond à 100%. Dans cet épisode, on va parler des peurs qu'on peut avoir quand on est déjà dans la vie active et qu'on s'apprête à tout plaquer pour créer ses propres projets d'entreprise, de comment faire la transition en douceur et diminuer les risques, ou encore du lien entre passion et réussite. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcast, et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Maeva. Salut Maeva, merci d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience sur ce nouvel épisode du podcast. Avant qu'on rentre dans des sujets plus ou moins poussés, on va dire, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter en quelques lignes et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors merci Quentin déjà de m'avoir invité. C'est la première fois que je suis interviewée pour un podcast, donc je suis assez intimidée, mais je suis ravie de participer à ce podcast. Alors moi, donc Maeva Rouxel, ça va faire 4 ans que je suis entrepreneur. Je me suis lancée à la base en tant que créatrice de site internet. J'ai un background du coup ingénieur informatique spécialisé en génie logiciel. Je suis pas une geek 100% passionnée par le code, mais j'aime bien créer spontanément des choses, voir que ça prend vie en fait sur un écran. Je trouve que c'est magique.
Le code pour toi, c'est plus un outil que... Enfin, ce qui te passionne vraiment dans le code, c'est plus le côté créatif et ce qu'on peut faire avec plutôt que écrire des lignes de code en soi, quoi.
Exactement, c'est exactement ça pour moi. Et du coup, je suis partie vraiment de « Ok, je suis développeuse, qu'est-ce que je peux en faire ?» Donc, je peux l'appliquer à mes clients pour créer des sites internet. Je peux aussi l'utiliser comme outil pour faire autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans les derniers mois, les dernières années, en fait, j'ai essayé de varier mon entrepreneuriat. Et l'année dernière, j'ai lancé du coup une plateforme, un collectif qui réunit les spécialistes de bien-être. Pourquoi je me suis intéressée à ça ? Parce que, en fait, moi, je m'intéresse au bien-être. J'adore tout ce qui est développement personnel et techniques un peu alternatives. Et plus tu recherches du bien-être, plus tu trouves qu'il existe beaucoup, beaucoup de techniques. Donc, sophrologie, naturopathie, yoga, méditation, etc., etc. Ça finit jamais, en fait. Et il n'y avait pas d'endroit sur Internet où on pouvait trouver, comparer, avoir des ressources vraiment de qualité et tester, en fait. Et ça me frustrait. Donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est dommage. Il faudrait bien qu'on crée quelque chose sur Internet pour réunir les gens. Donc, c'est là que j'ai créé Newsphere, du coup. Et depuis cet été, j'ai lancé des festivals en ligne. Donc ça, c'est des événements virtuels où, pareil, j'ai réuni des personnes, soit du bien-être, soit de la danse, soit du business, pour parler de thématiques spécifiques et animer des ateliers qui vont avec.
Ok, donc aujourd'hui, le cœur de ton activité, c'est plus vraiment de la création de sites internet pour un client, mais plus tu lances des petites plateformes, des petits business qui ensuite te rapportent de l'argent, c'est ça ?
Non, on va dire qu'il y a, ouais, il y a deux parties. Il y a une partie création de sites internet qui est quand même la base parce que j'ai fait ça pendant 3 ans à fond. Et la partie événementielle et création de dynamique entre plusieurs spécialistes, ouais, qui émergent, on va dire.
Ok. Et donc du coup, tu nous as dit que tu as fait une école d'ingénieur en spécialité informatique, plus précisément du génie logiciel. Déjà, est-ce que avant d'intégrer cette école, tu savais que tu étais passionné par l'informatique ou tu as choisi cette voie un peu par défaut parce que tu t'es dit « Ok, je suis bon en cette matière » et puis a priori, c'est une des voies classiques.
Alors, ni l'un ni l'autre en fait. Moi, j'étais bonne en maths. Quand j'étais au lycée, donc j'ai fait une spécialité maths, un bac S, et je savais pas du tout quoi faire après le bac. On m'a dit, mais t'aimes les maths ? Bah vas-y, va en fac de maths. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais aller en faculté de maths, et j'ai... En fait, j'ai pas voulu aller en maths pure, donc j'ai fait maths et économie, pour tester en fait, pour découvrir ce que c'était. Et là, j'ai découvert la macroéconomie et la comptabilité. Et j'ai pas du tout aimé, en fait. C'était lourd. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, on avait une matière d'informatique. Donc comment coder, des trucs très basiques en fait, juste pour afficher Hello World sur l'écran. Et ça, j'ai kiffé. C'était trop... Ouais, pour moi c'est magique un peu l'informatique, parce que tu écris quelques lignes et paf, t'as un résultat, ça change ton écran, c'est top. Et c'est ça qui m'a attirée. Donc petit à petit, j'ai laissé tomber les maths et je suis allée vers l'informatique.
Ok, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est, y a deux types, deux grands types de personnes qui sont intéressées par l'informatique. Enfin, deux façons, j'ai l'impression d'y rentrer. Soit on découvre ce monde assez rapidement, alors peut-être par hasard, et tout de suite on est passionné. Soit en fait on part dans une voie quelconque et tout d'un coup on met un pied comme ça. Là, tu nous dis effectivement, c'était un des cours que tu avais qui était centré autour de l'informatique, et tout de suite on se dit ah ouais, effectivement ça a l'air d'être intéressant, et ensuite on fait un espèce de virage à 90 degrés, alors en fonction de ce qu'on étudie déjà, mais un virage plus ou moins important. Et c'est marrant parce que moi aussi c'était le cas avant. Pour moi, l'informatique, c'était quelque chose qui me faisait assez peur. Il y avait beaucoup de maths, il y avait des langages qu'on ne comprenait pas. C'était un peu sombre. Et au final, bah, je suis parti dans une filière particulière. Et après, on avait des cours de langage C. Et là, je me suis dit, ah bah ouais, non, finalement, c'est pas si sombre que ça. Et il y a moyen de faire des trucs très intéressants avec. Et donc, du coup, comment... donc là, t'as fait une réorientation, a priori ?
Oui, du coup, en fait, quand t'es à la fac... T'as le droit de prendre des options. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en deuxième année de fac, j'ai pris des options informatiques. Et en troisième année, je leur ai demandé de passer en filière informatique en gardant un peu de maths. Donc c'était un peu les pieds en grand écart, on va dire. Et ça a été assez violent parce que du coup, j'ai quitté ma classe de maths et d'économie en troisième année pour intégrer une vraie classe d'informatique où là, il y avait des geeks. Et là, il y avait 99% de mecs. Donc ouais, c'est... ça changeait.
Et donc du coup, donc a priori, cette passion, cet attrait en tout cas pour la programmation, ça s'est avéré. Comment ça s'est passé une fois que tu t'es retrouvé vraiment dans un cursus très informatique, ou en tout cas plus informatique que ce que tu faisais avant? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as continué vraiment à aimer, ou alors est-ce que tu as eu une vision différente de ce monde-là?
J'avoue que ça fait un peu stéréotypé, mais les personnes qui m'entouraient, ça changeait vraiment de personnalité. Donc ça, c'était un peu surprenant pour moi, qui était globalement entourée de filles, en fait. Et là, t'arrives dans un monde de mecs très masculins. Donc c'était un peu perturbant. Mais mon attrait pour l'informatique, il était vraiment présent, même si j'avais raté, du coup, certains cours d'informatique qu'ils avaient eu en première et deuxième année. J'ai rattrapé le coche et ça m'amusait parce qu'il y avait un côté logique, un côté immédiat. Et ouais, pour moi, c'était vraiment de la pratique. Parce que avant, avec les maths, avec toutes les matières au lycée, t'avais pas trop, quoi. C'était plus de la théorie, de l'apprentissage, des théorèmes.
Ouais, c'est vrai que le côté création qui apparemment est ce qui te plaît le plus dans l'informatique, c'est vrai que en maths, bon, y a pas le côté création, il est pas trop là, quoi. Ok. Et du coup, donc, tu termines tranquillement tes études. Qu'est-ce que tu fais après tes études? Est-ce que tu te lances directement en indépendante, ou est-ce que tu es d'abord passé par un emploi pour un peu confirmer tes compétences et te spécialiser dans un domaine?
Alors du coup, j'ai fait de la licence, j'ai validé ma licence mathématiques. C'est écrit ça sur mon CV, même si j'ai fait beaucoup, beaucoup d'informatique. Et ensuite, j'ai intégré sur dossier mon école d'ingénieur qui s'appelle l'ISIMA, qui est à Clermont-Ferrand. Donc bon, ça a été un choc pour moi parce que je viens des îles de la Réunion, donc aller à Clermont-Ferrand avec la neige, c'est un peu hard. Mais l'école était géniale, c'était ambiance école d'ingé, c'était vraiment cool. Et c'est vrai que après, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, en école d'ingé, on nous demande de faire comme un plan de carrière pour savoir ce qu'on veut faire après. Et moi, ce que j'avais écrit, je me rappelle, c'était chef de projet. En fait, moi, je voulais diriger une équipe et gérer tout le monde. Sauf que ça, tu peux pas le faire direct après l'école d'ingé. Ça marche pas comme
ouais,
ça.
C'est compliqué.
Donc, je me suis dit, ok, bah, je vais faire comme tous les autres qui ont l'air de vouloir partir dans une grosse entreprise et être développeur plusieurs années, gravir les échelons, et ensuite, je ferai chef de projet. Sauf que moi, je suis attirée par tout ce qui est écologie, environnement. Et ça me faisait bien kiffer de faire un lien entre l'informatique et l'environnement. Donc, mon premier emploi, ça a été au CNRS. J'ai travaillé sur une application de reconnaissance de plantes. Donc, en fait, tu prends ton smartphone, tu prends une photo d'une plante sauvage que tu vois au bord de la route ou dans la forêt, et ça te propose, ça doit être un ficus ou un cèdre ou quoi que ce soit. Et donc ça, j'ai refait le design de l'application. Et c'était ultra cool. C'était créatif, ouais. Moi, je me rends compte à travers cette interview que, ouais, moi, c'est vraiment le côté créatif qui m'attire plus que tout.
D'accord, donc effectivement, ouais, t'as réussi à aller chercher un job où ce côté créatif était présent. Parce que c'est vrai que, ouais, alors même si... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de jobs de développeurs dans lequel il y a ce côté créatif, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire attention à aller le chercher, parce qu'on peut vite se retrouver, en fonction de ses spécialités, en fonction de la boîte et en fonction du job aussi, à gérer des bases de données, à faire du back-end, et puis voilà, des trucs un peu moins créatifs. Ok, donc et là, tu as eu ton premier job. Est-ce que cette envie d'être chef de projet était toujours aussi présente? Parce que d'après ce que tu nous dis, c'est vrai que t'avais pas encore cet aspect, cet attrait pour l'entrepreneuriat, et t'avais une vision assez, assez carriériste, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Est-ce que t'avais toujours cette vision au moment où tu étais au CNRS, où t'as commencé déjà à te dire bon, je vais peut-être me lancer en indépendant?
Alors du coup, c'était un CDD de 1 an qui pouvait être renouvelable. Mais à la fin d'un an, on a fait comprendre que c'était pas renouvelable. Et c'est un peu particulier parce que c'est un institut de recherche. Du coup, je connais pas vraiment la mentalité salariée avec un truc très pyramidal, avec beaucoup d'employés. Là, on était une toute petite équipe. Chacun avait vraiment son truc à faire. J'avais pas beaucoup de discussions avec les autres. J'avais du coup des échanges avec mon chef. Et je voyais que mon chef... Lui, il n'avait pas trop une mentalité de chef, en fait. Il était très spécialisé dans ce qu'il faisait. Du coup, j'avoue que le côté carriériste, moi, je ne l'ai plus vu, en fait. Et je me suis dit, ouais, je ne trouve pas ma place. Je ne me sens pas vraiment dans une équipe où je ne vois pas que je vais gravir les échelons. Et je sentais que le CDD, j'avais fait mon job et c'était fini, quoi. Il n'y avait plus besoin de moi. Donc, je me suis posé pas mal de questions, et c'est là que, j'étais à Montpellier, que j'ai rencontré un réseau féminin qui s'appelle les Wonder Meufs. C'est des femmes qui veulent changer le monde, ou leur monde, et la plupart sont entrepreneurs, donc indépendantes. Et là, je me suis dit, ah ok, en fait, c'est possible d'être autre chose que salarié. Parce que, je sais pas, mais... Même si ma mère, elle est médecin, donc elle n'est pas salariée, je me voyais, et je voyais autour de moi qu'il n'y avait que des salariés. J'entendais à l'école d'ingé que tout le monde cherchait une entreprise, une très grosse entreprise, pour avoir un très bon salaire, mais je ne voyais pas d'entrepreneur autour de moi, en fait. Et là, de rentrer dans cette communauté, j'ai compris qu'il y avait autre chose qui était possible et que je pouvais créer mon job. Là, ça a été la porte ouverte vers mon monde entrepreneurial. Et c'est là qu'il y a eu le déclic, ouais.
Ok, donc t'as fait cette rencontre-là quand tu étais encore dans ton CDD au CNRS, ou ça s'est fait après ?
Pendant le CDD, en fait, du coup, je cherchais des événements pour rencontrer du monde, pour me faire des amis. Et c'est là que je suis tombée sur cette communauté, elles étaient super sympas, un peu folles. C'est ça aussi qui m'a attirée, je pense. Et j'ai sympathisé, et ouais, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient indépendantes depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et que c'était possible, en fait, de créer, d'aider d'autres personnes qui te ressemblent. C'était, ouais, pour moi, c'était un autre monde. C'est comme s'il y avait 2 mondes parallèles.
D'accord, ok. Et donc, une fois que ton CDD au CNRS se termine, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là, tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je fais? Il faut que je puisse manger à la fin du mois, il faut que je retrouve un job. Ou est-ce que déjà, tu t'es dit... Je vais essayer de bosser sur mon projet parce que je peux me le permettre, peut-être que j'ai un peu d'argent de côté. Et est-ce que directement t'as foncé dans l'entrepreneuriat?
Alors du coup, quand mon CDD a pris fin, j'ai eu le chômage. Et là, je me suis posé plein de questions, mais c'est vrai que ça faisait plusieurs mois que je côtoyais les Wonder Meufs et que je me disais, mais ça a l'air trop fun, en fait, j'ai envie de faire ça. Et par chance, juste avant la fin de mon CDD, j'ai proposé à mon vendeur de paniers de fruits et de légumes de refaire son site parce qu'il était super dégueulasse. Il datait d'il y a 10 ans, il avait un design horrible, on pouvait pas réserver les paniers. Et je lui ai dit, mais moi je peux le faire, parce que je suis développeuse. Et il m'a dit, ah mais oui, pas de souci. Donc on a commencé à travailler ensemble, au début c'était du troc. Et puis finalement je me suis dit, mais c'est trop chouette. Là bon, là pour l'instant j'ai que des fruits et légumes en échange, mais imaginons que je peux gagner de l'argent avec, c'est génial. Et c'est de là que l'idée a vraiment germé dans ma tête que, ouais, j'ai des capacités, j'ai des compétences, et que je peux appliquer à des projets que je trouve super cool, et faire avancer les choses. C'est encore mieux que d'être dans une entreprise qui, elle, aide les autres. Moi, je peux aider directement. Donc c'est là que ça a commencé. Après, je t'avoue qu'il y a eu 2-3 mois de « Ah mais oui, mais est-ce que je le fais vraiment ?» et « Comment je le fais ?» Parce qu'en fait, il y a plein d'aides, mais il faut se renseigner, il y a plein d'options d'aides, c'est hyper compliqué. Donc j'ai fouillé Internet pendant 2-3 mois, j'ai fait des comparaisons, des listes d'inconvénients et d'avantages pour ensuite me lancer 3 mois après, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que quand on écoute des échanges comme le nôtre sur ce podcast qui dure une demi-heure, une heure, on n'a pas forcément le temps de tout détailler. Et donc on va assez vite sur certains points. Et c'est vrai que des fois, les personnes qui nous écoutent peuvent se dire « Ah bah tiens, c'est super, elle a quitté son job et un mois après, elle avait des missions en freelance. » Bon, ça peut arriver, mais en général, effectivement, on oublie de parler de toutes ces, tous ces moments de doute, toutes ces questions, ces moments d'attente. Et c'est vrai que ça, il faut aussi en parler, parce que quand on veut se lancer et qu'on se retrouve dans cette situation où on doute de soi, on a peur, on se dit « Ah bah, c'est pas normal, moi j'ai peur, donc si j'ai peur, c'est qu'il faut pas que je me lance. » Mais en fait, on a tous été dans le même panier et on est tous passés par ces moments de doute avant, quoi. Ok. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, tu t'es dit « Ah bah, effectivement, ce serait cool d'avoir plus que des fruits et légumes pour mon travail. » Et tu t'es inscrit sur des sites de freelance, t'as commencé à chercher d'autres missions?
Alors du coup, moi, ma stratégie à la base, quand je venais de me lancer, c'était de faire des événements réseau. Du coup, j'ai cherché tous les événements réseau qui se passaient et je me suis beaucoup, beaucoup épuisée parce que je tombais dans des événements réseau qui ne me correspondaient pas, qui étaient très corporate en fait. Et moi, je ne suis pas du tout corporate. Et je m'essoufflais parce que ça pompe de l'énergie de passer 2-3 soirs par semaine à faire ça. Faut vraiment le prendre en compte. Ça a l'air fun et que du plaisir, mais au final, c'est assez éreintant. Et moi, ce qui marchait le plus, mais où j'avais pas vraiment le contrôle, c'était le bouche à oreille. Ça veut dire que mon vendeur de fruits et légumes, il a parlé à son beau-frère. J'ai une Wonder Meuf que je connaissais qui a parlé à un ami, etc., etc. Donc ça, c'est pas un truc qu'on contrôle et que c'est assez difficile à gérer, mais pour moi, c'est ce qui marche le mieux.
D'accord, ok. Et comme ça, de fil en aiguille, t'as commencé à trouver tes premières missions et à gagner un peu d'argent. Au bout de combien de temps, après avoir terminé ton CDD, au bout de combien de temps t'as commencé à générer tes premiers revenus qui te permettaient de vivre, mais sans compter les aides que t'avais à côté?
Alors là, c'est très compliqué à calculer, parce que du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une possibilité pour les droits de chômage, c'est de prendre un capital. Donc en fait, tu perçois plus tous les mois, mais il te le divise en deux et il te verse la moitié. Et si jamais tu galères trop et que tu abandonnes l'entrepreneuriat, et ben il te reste l'autre moitié en réserve au cas où, quoi.
D'accord, donc ça c'était une aide à la création de l'entreprise, c'est ça?
Voilà, c'est ça, c'est ça.
D'accord.
Et du coup, j'avais ce capital-là qui m'a fait bien vivre, en fait, que, ouais, pendant super longtemps. Et après, j'ai trouvé des contrats. Et ouais, c'est super difficile à calculer parce qu'en plus, il y a des périodes, je sais pas pourquoi, j'avais plein de clients qui me venaient. Et il y a d'autres trimestres où là, c'était down et j'avais rien du tout. Je sais que la première année, c'était très difficile. Je vivais essentiellement du chômage. Et à la fin de la première année, en fait, j'ai fait une mini-dépression parce que je m'étais dit qu'au bout d'un an, il fallait que je fasse le bilan. Est-ce que c'est rentable ou pas? En mode, un an, c'est bon, Maëva, il faut que tu boucles le truc, quoi. Ce qui est pas du tout... Non, un an, c'est beaucoup trop court. Ne prenez pas en compte qu'un an. En général, les autres entrepreneurs me disaient 3 ans.
Ouais, mais c'est vrai qu'il faut avoir de quoi vivre pendant 3 ans, quoi. Donc effectivement, les personnes qui ont bossé, qui ont déjà eu une bonne carrière avant, 3 ans, c'est possible d'avoir le chômage, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, quoi. Ok. Et donc après, tu as commencé à avoir tes premières missions au bout de un peu plus d'un an, du coup. Et en fait, c'est vrai qu'il faut... Il faut aussi se rappeler qu'on a pas mal d'aide, surtout en France, et que ça peut aider aussi, ça peut aider à se lancer, ça peut enlever une barrière. Et moi, je conseille aussi souvent, parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir ce déclic à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat pendant mes études. Et c'est vrai que pendant nos études, alors ça dépend, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire des études sans devoir travailler à côté, mais moi j'avais cette chance-là. Et forcément, il me restait un petit peu de temps, même si la prépa et l'école d'ingénieur m'a demandé beaucoup de temps de travail, j'avais encore un petit peu de temps les week-ends et les soirs pour... commencer à monter un business entre guillemets, mais en gros c'était juste faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai eu cette chance-là en fait de me dire, ok, pendant 3 ans, je peux travailler sur mon projet et à la fin de mes études, bon bah soit je devrais prendre un job, soit j'aurais fait grossir assez cette fameuse chaîne YouTube et je pourrais commencer à en vivre. Donc c'est vrai que là tu t'es... Enfin, tu t'es lancé, t'as fait le grand saut entre guillemets, mais t'avais pas... le choix que ça, dans le sens où ton CDD touchait à sa fin, mais tu aurais pu aussi prendre un autre job à côté en te disant, ok, je continue à travailler dans une boîte et le soir je commence à travailler sur un projet, je commence à faire du freelance. Et c'est vrai que ça peut être aussi une autre solution pour les personnes qui ont ce rapport au risque qui est un peu différent du tien, quoi.
Après, moi, mon objectif à cette époque, c'était d'avoir le plus de temps libre possible. En fait, je voyais justement l'entrepreneuriat comme ma liberté personnelle à pouvoir allouer beaucoup de temps à mes loisirs et à mes passions, à ma passion qui est plus la danse et l'environnement. Du coup, c'est vrai que moi, l'objectif, même si je voulais être rentable et bien vivre, c'était pas d'être plein aux as ou d'avoir du boulot tout le temps, quoi.
D'accord, mais tu vois ça comme un... Tu vois l'entrepreneuriat comme une source de revenus qui te permet de travailler, par exemple, 1 ou 2 jours par semaine et de te consacrer à tes loisirs le reste de la semaine, ou tu vois l'entrepreneuriat comme quelque chose qui te permet de gagner de l'argent tout en exerçant ta passion. Est-ce que pour toi, c'est le travail et les passions et la passion d'un côté et de l'autre, ou c'est vraiment les deux qui ne font qu'un?
Eh ben, c'est rigolo parce que avant, c'était la première option. Du coup, c'était vraiment le but. Je voulais travailler qu'un jour ou deux. Et le reste du temps, je pouvais faire de la danse ou j'étais dans une association zéro déchet que j'aimais beaucoup et passer du temps avec ma famille. Et maintenant, c'est vraiment, comment dire, l'entrepreneuriat qui me prend tout mon temps, tout mon cerveau et tout mon cœur, quoi.
Ouais, et pour autant, ça te passionne, c'est pas, enfin, t'as pas l'impression d'aller au travail tous les matins en te disant oh, vivement le week-end, quoi.
Ouais, j'ai eu un switch et sans doute aussi parce que je pense que les festivals en ligne comment dire, me nourrissent mieux par rapport à la créativité, par rapport aux échanges avec les autres. Parce que la création de site internet, ça me plaisait beaucoup dans le côté créatif, mais dans le côté échange, j'étais assez frustrée parce que j'avais beaucoup d'échanges par rapport à est-ce que tu aimes ce design, est-ce que cette image tu l'aimes comme ça. Mais après, eh ben, j'avais plus d'échange en fait. Donc pour moi, c'était assez frustrant.
Ouais, c'est une relation client et développeur, quoi. Pas plus que ça, il n'y a pas d'échange, on va dire, plus humain, quoi. Ok. Et donc, à partir de quand tu t'es dit, bon, la création de site web, c'est bien, bosser pour un client, c'est bien, mais j'ai envie de bosser un peu sur mes propres projets. À partir de quand tu t'es dit ça, et est-ce que justement ça t'a fait peur de te dire, je vais me lancer dans des projets qui sont peut-être moins rémunérateurs parce que au final tu vas pas faire tu vas pas te dire ok je vais vous développer ça ça et ça pourtant là c'est vraiment tu travailles sur un projet et t'es pas du tout sûr de trouver des clients à la fin quoi. Donc à partir de quand tu t'es dit j'ai envie de faire ce switch là et est-ce que ça t'a fait peur?
Bah, du coup, c'était il y a 1 an et demi, je pense. Donc, quand j'ai eu l'idée de Newsfair. Quoique, maintenant, je réfléchis. Et il y a 3 ans ou 2 ans et demi, je sais plus, j'avais une autre idée de plateforme. Et en fait, cette idée n'a jamais germé et ça n'a jamais rien donné. c'est un peu ma grosse déception en fait, parce que pour moi c'était the gros projet. Donc j'avais l'idée de créer une plateforme de mise en relation entre prestataires, donc développeurs, graphistes, communicants, etc., et les projets éthiques. Donc projets éthiques, je veux dire environnementaux ou sociaux. Donc ça, c'était un peu mon projet coup de cœur en lien avec ce que j'aime, quoi. Et ça, ouais, ça...
Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas abouti ?
Je pense que c'est la peur. Je le voyais comme très très gros, un très très gros projet, et j'avais personne derrière moi. C'est-à-dire que j'ai fait des concours ou des ateliers pour parler de ce projet, et les gens, ils étaient contents, ils me disaient « Ah mais oui, j'adorerais, je me mettrais sur la plateforme, moi j'ai un projet éthique, ça serait trop cool. » Mais après, je me retrouvais toute seule en fait, devant mon ordinateur, et la peur de mettre ça en place, et je voyais que la plateforme elle allait être hyper complexe. Donc ouais, ça n'a jamais vu le jour.
D'accord, donc en fait c'était ouais, la complexité du projet qui t'a fait peur et qui t'a bloqué un peu et qui t'a empêché de te lancer. Et avec le recul maintenant, alors peut-être que ce projet t'intéresse un peu moins, mais si ce projet t'intéresse ou t'intéresserait toujours aujourd'hui, est-ce que avec le recul tu te dis j'aurais fait autrement, j'aurais peut-être essayé de trouver soit des développeurs, soit des investisseurs, ou alors j'aurais essayé de le faire moi-même en essayant d'utiliser des outils qui sont déjà construits, en essayant d'oublier un peu des fonctionnalités dans un premier temps. Comment tu aurais réagi ?
C'est intéressant comme question. Après, moi, je pense que je devais passer par là pour créer ma plateforme Newsphere qui existe maintenant. C'est un mal pour un bien, quelque part. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû simplifier le truc, mais à l'époque, et même encore aujourd'hui, la plateforme, je voulais la faire from scratch. Je voulais vraiment la coder moi-même. Je voulais vraiment que ce soit de mes mains que je la crée, tu vois.
D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette plateforme Newsphere qui, aujourd'hui, a vu le jour, c'est ça ?
Ouais, en mars 2020. Attends, on est en quoi, là ?
On est en 2021.
Mars 2020.
Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette plateforme ?
Alors oui, du coup, j'ai eu l'idée en l'été 2019, waouh, ça fait déjà un moment, de créer cette plateforme, de réunir des spécialistes bien-être, de créer des programmes, de co-créer des programmes, c'est-à-dire que c'est pas que les spécialistes qui créent un programme. Moi, j'avais aussi mon côté informatique, je pouvais les guider vers qu'est-ce qu'on pourrait faire en ligne. Et ce serait du coup un produit pour les particuliers, comme ça, de chez eux, de leur canapé. Ils peuvent tester la sophrologie, la méditation, le yoga, etc. Et c'est vraiment la porte ouverte pour tester de nouvelles techniques et trouver son bien-être. Et en fait, quand j'en ai parlé, je me suis dit « Ouais, j'aime bien l'idée, mais bon, je sais pas trop quoi. » Et j'ai commencé à mettre des petits mots sur Facebook. « Ah, j'ai eu cette idée, est-ce que ça intéresserait certains ?» et certaines. Et en fait, j'ai eu beaucoup de demandes, je crois une vingtaine de demandes de spécialistes qui me disaient « Ah mais ouais, mais moi j'adore, j'aimerais trop créer un programme en ligne, mais je sais pas trop comment faire, j'ai pas la technique, donc ce serait trop cool. » Et en fait, j'ai sélectionné du coup une petite dizaine de spécialistes qui, eux, étaient vraiment prêts à s'investir dans la plateforme, et on a créé la plateforme ensemble, on a créé les programmes ensemble, et on a lancé la plateforme du coup en mars 2020. C'était très intense et très fatigant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe. En fait, il y a le côté complexe technique au niveau du code. Ça, je m'y attendais un peu, donc ça allait. Mais c'est surtout le côté entrepreneuriat où c'était lourd, en fait. Il y avait beaucoup de stress, de peur, de blocage intérieur qui sont rentrés en compte. Et là, j'ai l'impression de vraiment, vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat.
D'accord. Ouais, j'allais te demander justement comment est-ce que... alors, en fait, il y a deux naissances pour un projet, je pense. Il y a la première naissance, le projet, quand il naît dans la tête, et la deuxième naissance, quand il voit le jour. Là, effectivement, la première naissance, bon, bah voilà, elle est née dans ta tête, le projet est né dans ta tête. Et après, en fait, j'allais te demander, effectivement, est-ce que t'as parlé de ce projet-là autour de toi ? Est-ce que t'as fait des tests ? Est-ce que... ou alors, vraiment, tu t'es lancé toi-même dans ce projet-là et après, tu as trouvé des collaborateurs. Donc, c'est vrai que tu as un peu répondu à la question en nous disant que tu as cherché un peu des collaborateurs sur des groupes Facebook. Et c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que c'est comme si tu avais appris de tes erreurs. Pour ce, alors, c'est pas vraiment une erreur, mais pour ce premier projet qui n'avait pas vu le jour, où tu nous dis j'ai trouvé personne. Alors bon, là, t'avais quand même fait quelques salons, quelques soirées entrepreneurs pour essayer de trouver des gens qui pouvaient bosser là-dessus avec toi. Mais là, du coup, ouais, c'est intéressant parce que on voit que cette fois-ci, tu t'es dit, ok, je veux lancer ce projet-là, et t'as mis les efforts nécessaires en place pour aller chercher ce qu'il te fallait, quoi. Donc là, en l'occurrence, il te fallait pas forcément un profil technique, parce que tu avais déjà les compétences techniques, il te fallait plus des créateurs de contenu, si j'ai bien compris.
Ouais, exactement. Et ça m'intéressait vachement en fait de voir le contenu et de voir comment l'intégrer à la plateforme, tu vois, pour qu'il y ait une cohérence. Et en plus, les spécialistes, du coup, c'était que des femmes, il n'y a pas d'hommes pour l'instant. Donc elles me motivaient, elles étaient là en fait pour me soutenir. Et ça me manquait dans l'autre projet.
D'accord. Ah oui, donc tu as réussi à trouver des profils qui vraiment t'ont soutenu, alors qu'a priori, enfin, elles étaient impliquées à. Enfin, ils, on va généraliser, en quel. Enfin, comment ces personnes-là étaient impliquées dans ton projet? Est-ce que c'était juste, entre guillemets, des créateurs de contenu pour la plateforme? Ou est-ce que vraiment ils travaillaient avec toi sur comment on organise la plateforme, comment on fait le design, comment on crée l'expérience utilisateur, etc., etc.
Alors justement, excellente question parce que le curseur est difficile à placer, c'est-à-dire que moi quand j'ai lancé le projet, je voulais vraiment que ce soit une collaboration et qu'on crée vraiment une équipe, qu'elle mette pas vraiment la main à la pâte, mais presque qu'elle prenne part au projet. Et en fait, au début, elles sont plutôt positionnées comme créatrices de contenu, comme tu disais. Donc à fournir tout ce qui est vidéo, le texte et les audios, et de voir venir ce qui se passe après. Et il a fallu vraiment réajuster pour voir comment chacune peut prendre sa place. Et ça, c'est encore en test en fait. On n'a toujours pas trouvé le juste milieu. Là, on abandonne petit à petit, j'ai pas envie de dire qu'on abandonne totalement, mais on est de moins en moins sur les programmes en ligne et on est de plus en plus sur les rencontres virtuelles, donc les échanges en live. On trouve ça, donc moi je préfère en fait. Je trouve que c'est plus vivant de voir la personne en direct qui nous fait un retour que quelqu'un qui est tout seul chez lui en train de faire son truc dans son coin. Même si peut-être qu'il continuera à avoir des programmes en ligne, mais pour l'instant on s'en écarte un peu. Et là, on est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait de Newsphere en fait? Parce que les programmes en ligne, on les a lancés du coup dès mars, de mars à juillet. On en a lancé 7, je crois. Et ça n'a pas trop marché. On a dû faire une dizaine de ventes. Donc c'est pas très satisfaisant pour nous, pour tout le travail qu'on a fait derrière, en avance. Donc là, on est en train de se repositionner et se demander comment on s'organise. Justement, là, il y a d'autres personnes qui sont en train de monter des projets en indépendant et on essaye de voir comment, en fait, on peut co-organiser ça.
D'accord, donc c'est intéressant ce que tu nous dis parce qu'on voit effectivement que t'as pas lancé ton projet dans ton coin, c'est vraiment tu t'es entouré de personnes et c'est pas non plus. Enfin, t'as pas cherché entre guillemets à employer, alors employer sans forcément parler de fiches de salaire, etc., mais t'as pas cherché à déléguer, mais vraiment à créer un cercle de personnes, un groupe de personnes qui travaillent ensemble sur le même projet. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est pas toujours facile de trouver des profils qui sont intéressés par notre idée parce que en général, les personnes qu'on recherche, c'est des personnes qui ont un profil au moins un peu entrepreneur. Et si ces personnes-là ont ce profil, bah, c'est peut-être aussi qu'elles ont envie de travailler sur leur projet à elles. Et du coup, on se retrouve un peu avec une contradiction, un paradoxe qui fait que c'est assez difficile de trouver des personnes qui sont intéressées par le projet, et en même temps qui se donne à fond dedans, quoi.
Bah ouais, c'est sûr que j'ai eu des retours de leur part qu'elles pouvaient pas se donner à fond dedans parce que justement, elles ont un business à elles et elles ont besoin de faire rentrer de l'argent et de manger. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est justement le juste milieu à trouver, quoi. Quelle place tu prends? À quel point tu as envie de t'investir? Et qu'est-ce que tu as envie de faire, surtout? Parce que si on fait un truc qui est rentable mais on s'éclate pas, c'est pourri, quoi.
Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, tu nous dis, donc là, ça fait presque un an que tu as lancé la plateforme. Donc, tu nous dis, hein, ça t'a pris énormément de temps et je pense que ça t'en prend encore beaucoup. Comment t'as vécu un peu cette transition? Parce que je me doute que voilà, tu avec tes missions freelance, il fallait avoir le courage de se dire bon bah je fais un peu moins de freelance pour me consacrer à ce projet-là. Comment je vais faire pour gérer mes revenus? Je suis pas du tout sûr que ça marche. Enfin là, je suis vraiment en train d'investir du temps dans quelque chose sans être sûr. Que je vais avoir un retour sur investissement là-dessus, quoi. Donc comment t'as géré un peu cette transition?
Alors c'est drôle parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait presque la même erreur que quand je me suis lancée. C'est-à-dire que en janvier 2020, je me suis dit que je ferais le point dans 6 mois. Je me donnais 6 mois en fait, où je puisais dans mes revenus, donc dans mon épargne. J'avais mis de côté... pendant mon entrepreneuriat et je me consacrais 100% à mon projet, donc à Newsphere, pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Et au bout de 6 mois, je ferai le point de savoir si ok, c'est bon, Newsphere ça roule comme sur des roulettes ou pas du tout. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que on m'avait beaucoup demandé, les spécialistes m'avaient beaucoup demandé si comment j'allais faire pour le marketing, pour la communication. Et moi, je suis développeuse. Je fais pas de la communication, je fais pas de pub Facebook ou je sais pas quoi. Donc, j'avais fait une recherche pour quelqu'un côté marketing qui pourrait nous rejoindre. Et j'en ai trouvé une qui est géniale, mais qui pouvait pas travailler bénévolement. Donc en fait, on a beaucoup discuté et on est arrivé à un point où je lui disais, bah ok, est-ce que tu peux travailler bénévolement une partie, mais l'autre partie, je te paye. Et dans ce cas, bah, je puise encore dans mon épargne. Donc ça me laissait vraiment 6 mois de vie, entre guillemets, pour booster le projet et voir ce que ça donne à la fin. Et à la fin, est-ce qu'on crée une entreprise à deux, du coup, plus grosse, en mode vraie entreprise et pas juste micro-entrepreneur? Ou est-ce qu'on abandonne et Newsphere, ça vaut pas le coup? Donc là, c'est vrai que pour moi, c'était une deuxième erreur parce que c'est pareil, 6 mois, c'est ridicule. En 6 mois, on peut pas vraiment faire un bilan.
Ouais, bah après, alors c'est vrai que par rapport au deadline, tu nous dis de 6 mois et de 1 an, c'est vrai que ça peut être un peu short, mais je pense que c'est bien quand même de se fixer des deadlines en se disant, ok, premier trimestre, ou alors premier semestre, ou alors dans 1 an, je fais un point, et en fonction de ça, bah, j'avise, quoi. Est-ce que je continue, est-ce qu'on fonce, ou est-ce que c'est peut-être le moment de revoir sa stratégie? Je pense que effectivement. Par rapport aux deadlines, c'est peut-être pas forcément les bonnes, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne idée dans le sens où bah, ça nous met, alors on peut pas appeler ça un parachute ou un filet de sécurité, mais au moins on se dit ok, je vais jusque-là et après on fait un bilan et puis ça permet aussi bah, de ne pas de se forcer un peu à prendre du recul et à sortir la tête du guidon parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet. On y pense jour et nuit, et les jours passent, les mois passent, et puis au bout de 6 mois, ah bah en fait, il n'y a plus beaucoup de sous sur le compte en banque, quoi. Donc, donc c'est bien aussi d'avoir des deadlines. Ok. Et donc du coup, ce projet-là, il en est où à l'heure actuelle?
Bah du coup, je suis en train, comme je te disais, c'est en train d'évoluer. Je ne sais pas comment, je n'ai aucune idée de comment, mais en fait, on a eu vraiment de grosses discussions assez franches. Où moi j'exprimais ce que j'aimais pas et en fait on avait pris un mode de fonctionnement mais qui correspond ni à moi ni aux spécialistes. Du coup c'est sûr que ça fonctionnait pas, c'est logique. Et du coup là on essaie de vraiment reconstruire, pas de zéro mais presque, et de voir ok mais qu'est-ce qu'on veut vraiment et comment on peut le faire et de tester comme si c'était un peu un terrain de jeu où là tout est possible. Moi, j'ai les techniques et les compétences informatiques que vous pouvez utiliser. On a déjà une communauté, on a déjà un site, une plateforme. Ben, vas-y, on va jouer, quoi.
Ok, top. Ouais, bah effectivement, ça donne un bon aperçu un peu de l'entrepreneuriat et de l'investissement de son temps sur un projet personnel, quoi. Parce que c'est vrai que il faut à la fois gérer son argent, l'argent qu'on a déjà, ou l'argent qu'on a des investisseurs si on a réussi à faire des levées de fonds, l'argent qu'on a mis de côté, ou alors l'argent qu'on continue à gagner si on est encore employé ou encore freelance à côté, et en même temps gérer ça et gérer le temps qu'on passe, le temps qu'on investit sur un projet pour que ce projet-là arrive à générer des revenus le plus rapidement possible, quoi. Ok, c'est bien top, ça donne un bon aperçu de ton aventure. En tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite pour ce projet-là ou pour un autre, parce que il faut pas aussi oublier que en général, quand on se lance, on a une première idée de projet, ça fonctionne pas, on pivote ou alors on change complètement de projet. Puis au final, c'est pas grave d'échouer parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Et comme tu nous le disais tout à l'heure, le premier projet qui n'a pas vu le jour, sur lequel t'as pas vraiment osé te lancer, même si tu t'es pas lancé, ça t'a appris certaines choses, et puis sur le deuxième projet, il y a plus de chances que ça marche, et encore plus éventuellement sur le troisième, s'il y en a un, quoi. Ok. Dernière question pour conclure sur cet épisode. Est-ce que tu aurais une ressource particulière, alors ça peut être un livre, ça peut être un site web, une série, un film, peu importe, quelque chose que tu as consommé récemment ou moins récemment et qui t'a beaucoup inspiré et que tu aimerais partager aux auditeurs?
Alors du coup, c'est pas un site web, une série, un film ou un podcast, mais du coup c'est plus un groupe Facebook que j'ai vraiment aimé. Côté entrepreneuriat, peut-être pas développeur, pas trop, mais entrepreneuriat libre, ça s'appelle les aventurières. Donc c'est encore des femmes, mais il y a des hommes quand même dans le groupe, donc vous pouvez quand même intégrer le groupe. Et c'est vraiment aussi grâce à elles que j'ai découvert que ouais, on peut vraiment mettre du fun, du cœur et de la folie en fait dans l'entrepreneuriat. C'est ok.
Ok. Top. De toute façon, je mettrai les liens de ce groupe-là. On peut y accéder facilement. C'est un groupe privé, groupe public?
Me semble-t-il que c'est un groupe privé.
D'accord. Bon, de toute façon, je mettrai le lien.
Je t'enverrai le lien au pire, ouais.
Ouais, ok, super. Merci beaucoup Maëva, et je te souhaite vraiment bon courage pour cette plateforme Newsphere, et puis peut-être à bientôt, hein, dans un deuxième épisode, dans quelques mois ou quelques années, pour voir l'évolution de ce projet, ou ton évolution personnelle à toi.
Super, merci beaucoup Quentin.
Merci à toi, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute, et moi je vous dis à la semaine prochaine.